Toujours sur le 92.
Oh là.
Toujours sur.
Oh.
Oh. Oh. Oh. Oh. Toujours sur le 92. Hey, on entend. Ah oui, ça c'est un problème de petit souci. C'est Tétalab qui commence. Nous vous écoutons.
Bonjour, bienvenue sur la chronique du Tétalab, le bit et le couteau. Donc dans ce mélange de musique, vous avez dû reconnaître pour les connaisseurs, quand même, le générique de l'émission Mystère. Non, c'était bien. Hein. Ça et La Nuit des Héros, moi j'ai adoré. Donc aujourd'hui, on va parler de Mystère. Donc aujourd'hui, on est encore plein. Ça fait. Alors Guillaume, Pierre, Alex et Étienne. Donc,
salut.
On va faire un tour rapide de l'actu. Moi, j'ai rien du tout sur l'actu. Donc, c'est qui se dénonce ?
Étienne, tu avais préparé quelques trucs. On peut faire un rappel pour accéder à toutes les informations dont on va parler, et notamment les liens pour avoir plus d'informations sur Internet. Vous pouvez aller sur canalsud.tetalab.org où vous trouverez les liens, les génériques, les musiques que vous pourrez télécharger à la maison.
Et le pad sur lequel vous pouvez réagir et sur lequel qu'on essaiera de suivre pendant l'émission.
Ouais, exactement. Donc dans les actualités, on a commencé à parler c'est des actualités de la semaine dernière, de la destruction des disques durs de Snowden au Guardian. Donc le Guardian, c'est un journal britannique qui a récupéré des informations de Snowden pendant l'été dernier, et les services secrets anglais britanniques sont allés demander au Guardian de détruire leur machine.
À coup de disqueuse et de perceuse.
À coup de disqueuse, et donc le Guardian a sorti les vidéos de ces destructions-là la semaine dernière, et c'est assez marrant de voir les agents de sécurité en train de regarder tranquillement les journalistes disquer leurs disques durs et percer leurs cartes mères.
Ouais, et puis ça n'a aucun intérêt, quoi.
Ça montre bien aussi que Greenwald a eu sans doute raison de faire quelque chose d'un peu plus indépendant, puisque a priori le Guardian avait du mal à garder cette indépendance.
Et qui a d'ailleurs sorti son nouveau site depuis hier, ou avant-hier, c'est The Intercept, où il est en collaboration avec Laura Poitras, qui avait été contactée directement par Snowden, et Jeremy Scahill, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il a un nouveau blog et des nouveaux articles à suivre. Autre actualité, qu'est-ce qu'on avait, Bluetooth, qui a perdu son procès en appel contre l'État français, qui a été condamné à 3000 euros d'amende pour avoir trouvé des documents sur Google qui étaient pas protégés par un mot de passe.
Il a un truc de médecine, je sais pas quoi, comme.
Sur Google.
Ouais, mais c'était un organisme sur la médecine, un peu comme le CNRS, un organisme public, quoi.
Ouais, c'est ça.
Sécurité alimentaire, je crois.
Voilà, ouais.
Sécurité alimentaire. Bon, ce qui s'est passé, c'est que légalement, il n'a pas été condamné. Bon, pour revenir, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient une partie privée et dont l'arborescence n'était pas protégée. Donc Google avait tout indexé, il a trouvé le doc sur Google, il a tout téléchargé. Et apparemment, ce qui a été condamné juridiquement, c'est pas pour être rentré sur le système, c'est pour qu'une fois qu'il s'est aperçu qu'il y avait bien une protection, avoir quand même récupéré les documents, puisque donc c'est pas un accès frauduleux, c'est un maintien d'accès frauduleux. Il y a un très bon article de Maître Hollas là-dessus qui explique pourquoi il a bien fait d'être condamné. Même si en tant que geek et technicien, ça fait vraiment râler de voir des choses comme ça et des condamnations aussi injustes.
Ouais, et puis ils se sont sentis tellement mal qu'ils ont pas. C'est pas eux qui ont porté plainte, en fait.
Non, ils sont pas portés partie civile, c'est le procureur général qui allait en appel. Eux, ils sont sortis en disant ok, on a vraiment fait n'importe quoi, on dit rien.
Ouais.
Ce qui est aussi marrant, c'est que j'ai lu, je crois que c'était hier ou quelque chose comme ça, l'avis d'un juriste ou d'un avocat, je sais plus, qui. Parce que les commentaires sur le net sont plutôt en faveur de Bluetooth, quoi. Et là, il y avait un juriste qui argumentait sur le fait que la condamnation était compréhensible dans le sens où Bluetooth avait conscience des documents qu'il récupérait. Mmh. Donc c'est assez marrant en fait de voir que parce qu'il avait conscience de ce qu'il faisait, alors à ce compte-là il pouvait être condamné, alors que quelqu'un qui aurait fait ça sans avoir conscience de télécharger des documents en partie privés, cette personne-là n'aurait pas forcément été poursuivie, quoi, en fait.
Mais, ouais, ce qu'il a dit, c'est, je pense qu'on parle du même article, et ce qu'il a dit effectivement, c'est qu'il y a ça, et puis non seulement il l'a fait, il était conscient, mais en plus il l'a dit. Donc ce qui conclut la fin, c'est tout se base, ce qui est dommage, c'est Bluetooth en toute bonne foi a dit bah oui, j'ai vu ça, j'ai récupéré les docs, je pensais pas que c'était sensible. Et en toute bonne foi, s'il avait rien dit, il aurait rien eu sur quoi appuyer sa condamnation. Ah, donc il conclut son article en disant si jamais vous êtes en garde à vue, taisez-vous.
Voilà, ça c'est marrant. Ouais.
Donc je vais mettre l'article sur le pad, je pense qu'il intéresse Marie.
C'est un peu un défi à l'intelligence quand même, cette histoire. Quoi. C'est assez rigolo.
Et ce qui est frustrant aussi, c'est qu'effectivement il y a eu beaucoup de bruit parce que notamment les juges en appel n'avaient aucune compréhension du tout de l'informatique. Le procureur général dans la conclusion a dit oui, j'ai pas compris trois quarts des mots qui ont été dits dans ce procès, mais quand même il mérite bien une bonne amende. Dans ce cas, en tant que technique, quand on voit ça et puis des défauts aussi flagrants, ça fait mal au cœur.
Ouais, bah en tout cas, il est en cassation.
Il est en cassation.
C'est un pourvoi. Ok.
Autre actualité, pareil la semaine dernière, le Chaos Computer Club, donc c'est un groupe de hackers allemands qui est très impliqué dans la vie politique allemande liée aux libertés numériques, qui a porté plainte contre le gouvernement allemand, car ils ont maintenant toutes les preuves pour être sûr que le gouvernement allemand utilise ses services secrets afin de mettre en place des surveillances illégales. Donc les Allemands qui travaillent avec la NSA pour surveiller des gens,
ouais.
Donc dont Angela Merkel, qui, bon, pas de bol, c'est tombé sur elle, mais probablement d'autres politiques allemands sont surveillés par des services secrets, et peut-être aussi les services secrets allemands participent à cette surveillance. Et donc le Chaos Computer Club qui lance une plainte contre le gouvernement afin d'avoir au moins une enquête mise en place par rapport à l'utilisation des technologies de surveillance par leurs propres services secrets.
Il y en a d'autres.
Qui peut être criminel.
D'accord. Des actus, t'en as d'autres ? Non ?
Non, on va continuer.
Ouais, je suis peut-être juste une actu. On a parlé d'HTTPS pas mal la dernière fois. J'avais parlé d'HTTPS. Et il y a juste eu un article intéressant sur un blog qui on parle donc aujourd'hui d'HTTP2, qui serait donc il y a des gens qui travaillent sur un nouveau protocole pour le web, qui sont une amélioration de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et des discussions pour est-ce qu'on met du chiffrement par défaut ou pas. Et ça a beaucoup de débats parce que ça pourrait empêcher des sites d'avoir accès, etc. Et donc a priori ce qui se fera, c'est que la future version HTTP2, ça sera pas obligatoire, mais les navigateurs l'implémenteront, donc on aura du HTTPS par défaut sur tous les sites obligatoires. A priori si un jour ce protocole est figé et arrive, ce qui n'est pas encore certain.
Bon. Ok. On a fait le tour de l'actu. Toi, tu as quelque chose à dire là ?
Ça va bien.
Tu dis rien ? Non, bon. Pierre. Dossier, alors qui commence le dossier ? Je commence, tu commences ? Allez. Oui. Bon, alors moi, je vais parler de mystère. Donc, c'est ce matin, je suis tombé sur Indiegogo, une grosse plateforme de crowdfunding, sur une appli qui traite de conscience collective. Donc j'étais un peu curieux, mais qu'est-ce que donc que la conscience collective ? La conscience collective, c'est une théorie qui date du début du 19e, qui dit que la conscience de tout un chacun, quand elle est mise en commun, a un certain pouvoir. Et de ce pouvoir, il y a des scientifiques qui se sont penchés dessus et qui ont créé ce qu'on appelle la noétique. Alors je suis allé voir, je me suis dit, bon, encore un truc de hippie New Age, Jean Sarouel. Mais apparemment, il y a 80 scientifiques, dont un ancien prix Nobel de physique, il ne faut pas me demander Kornicki, qui se sont penchés dessus. Et là, j'ai un peu regardé. Donc en fait, leur théorie, c'est qu'ils ont des machines, des RNG, des générateurs de nombres aléatoires. C'est-à-dire une machine qui va sortir des 0 et des 1. Et sur un certain laps de temps, le nombre de 0 et de 1, il est à peu près de 50%. Donc on a une probabilité que de 50%. Et ces machines, donc ils sortent, en gros, c'est même des atomes qui sont projetés. Enfin, j'ai rien compris au truc. Mais bon, ça fait des nombres aléatoires. Ils en ont placé un peu partout dans le monde et ils se sont aperçus que lors de grands événements, comme par exemple le 11 septembre, il y avait une déviation dans la probabilité de ces nombres aléatoires. Et puis les courbes sont assez claires, c'est assez énorme. Donc notre conscience aurait le pouvoir de changer une machine de nombres aléatoires. Alors je ne sais pas si c'est la conscience ou on émet des ondes électromagnétiques. Les mecs ne savent pas trop encore d'où ça vient, mais les faits sont là. et ça marche. Et par exemple, au Burning Man, qui est le festival au milieu du Nevada, chaque année, ils amènent plein de machines de nombres aléatoires et ils s'aperçoivent qu'au moment où ils mettent le feu au Man, ben là, il y a un gros pic sur ces événements. Et je crois le dernier événement où il y a eu un pic, c'était quand il y a eu un tsunami aux Philippines ou je ne sais plus. Voilà, donc les gars sortent une appli téléphonique sur smartphone qui va permettre en fait de créer un immense réseau et de pouvoir collecter les données directement sur un serveur. Voilà, c'était tout. Ensuite, deuxième mystère, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui était d'une émission qui est passée sur je ne sais plus quelle chaîne, mais qui était le mystère des pyramides. Alors, en général, quand il y a des trucs sur les pyramides, tout ça, on voit des gars chevelus avec les cheveux dressés sur la tête ou du papier aluminium sur la tête qui disent que c'est une base d'atterrissage pour vaisseau Goa'uld. Mais là, le reportage est très bien fait parce que ça se base sur des faits. Donc les gars, ils commencent à regarder la pyramide de Gizeh. Alors la pyramide de Gizeh, c'est le tombeau de Khéops. Et apparemment, à ce que j'ai compris, son règne a duré 20 ans. Donc ils disent la pyramide de Gizeh, qui est la plus grande, elle est immense, ils ont mis 20 ans pour la faire. Alors il y a 2 millions de blocs, et chaque bloc c'est quoi, c'est 10 ou 15 bagnoles, le poids de 10 ou 15 bagnoles. Les gars sont venus, ils ont fait 900 km pour aller chercher du granit. Et la personne dit, bon, ben, sur 20 ans, à raison de 12 heures par jour et tous les jours de l'année, il faudrait en fait sortir un bloc, le tailler, le poser, l'amener là-bas toutes les 2 minutes 30. Donc c'est impossible, quoi. Et par exemple, pour Abou Simbel, le temple qui allait être enseveli par la montée des eaux du barrage d'Assouan, il y a 1305 blocs. Et nous, avec des machines, des tractopelles, tout ça, ça leur a pris 5 ans. Donc, bon, c'est le premier truc. Puis bon, ils n'ont jamais trouvé de reste d'excréments, parce que si ça représente des milliers et des milliers d'esclaves, ils n'ont jamais retrouvé même d'outils. Ils ont regardé les outils qu'ils pourraient utiliser. Donc, il y a une espèce de pierre ronde. Donc, les gars iraient par érosion des blocs de granit pour les tailler. Et il faut savoir que les blocs, ils sont ajustés au dixième de millimètre. Donc ça, même à l'heure actuelle, on ne sait pas trop le faire. Il y a des machines avec du diamant zircon qui arrivent à le faire. Mais bon, c'est un peu improbable, quoi. Et surtout, c'est au niveau mathématique, la pyramide, elle est comment dire, parfaite. Si on raisonne en mètres, donc eux, ils ne connaissaient pas les mètres. Si on prend la longueur fois 2 divisé par sa hauteur, on obtient pi. Si on prend en fait plein de cotations dans la pyramide, on obtient aussi le nombre d'or. La pyramide, elle est orientée au nord d'une façon presque parfaite à 5 centièmes de degré. La seule fois où on est arrivé, c'était, je crois que c'est la Maison Blanche, qu'elle est orientée à 25 centièmes de degré. Donc les gars avaient une super précision. Et aussi, dans ce reportage, ils regardent comment sont construites la pyramide. Et en fait, c'est des blocs qui n'ont pas tous la même taille, mais qui s'emboîtent parfaitement. Les égyptologues, ils ont dit, c'est normal, ils vont essayer de réutiliser les pierres au mieux. Mais ils se rendent compte qu'en fait, tout est symétrique. Les blocs découpés n'importe comment d'un côté, ils sont découpés de la même façon de l'autre côté. Et on ne peut même pas, dans la chambre au milieu de la pyramide, on ne peut même pas passer une lame de rasoir entre les blocs, et ces blocs sont totalement verticaux, et ils savent pas comment ils ont pu le faire parce qu'ils n'avaient pas les outils pour calculer ça. Donc ensuite, bon, c'est une accumulation de faits comme ça. Ils ont remarqué aussi que la pyramide, elle montre parfaitement les équinoxes, et que lors des équinoxes, en fait, on se rend compte que la pyramide, elle a pas 4 faces, mais elle a 8 faces. Sur chaque face, il y a un renfoncement. Les égyptologues ont dit, oui, c'est les murs qui se sont affaissés, mais des gros architectes, comme un gars qui a fait un super truc à Londres, je sais plus comment, bon, enfin, un mec connu, pas un tocard. Et il a dit, mais c'est impossible, sinon l'intérieur serait affaissé, c'est pas possible que ça soit affaissé. Bon, je vais passer sur tous les trucs encore plus énormes qu'il y a dedans. Mais le gars est parti ensuite sur l'île de Pâques, et il se rend compte que le type de construction, plus elle est vieille, plus les pierres sont super bien ajustées, qu'il y a un peu le même type de construction. Et pareil, à Nazca, on a aussi ce même type de construction, et sur le Machu Picchu aussi.
Un Cusco aussi,
Un Cusco, voilà. Et on a des hiéroglyphes qui ne sont pas les hiéroglyphes des Égyptiens, mais une civilisation antérieure qu'ils n'ont jamais pu déchiffrer et qui ont un peu la même tête au niveau des dessins. Et donc,
Il y a un crowdfunding sur ça ou...
Ouais, non, moi je parle ça parce que ça m'a interloqué. Ouais. Et en fait, si on aligne tous ces sites sur une ligne, on obtient un équateur, mais qui est pas qui passe par notre équateur, mais qui en fait est incliné de 30 degrés. Et se rendre compte que le centre de ce nouvel équateur, en fait, ne passe pas par notre équateur, mais par au milieu du pôle magnétique. Alors, le pôle magnétique, c'est, il n'y a pas un centre fixe. Hein. Tous les jours, ça peut changer de 40 ou 50 km le pôle magnétique. Et donc... Mais carrément, carrément. Donc, si aussi, après, on prend la position de Nazca de Gizeh et le centre magnétique terrestre, et qu'on en fait, ça fait une sorte de pyramide si on se reporte à le truc. Je vous regarde, vous voyez le dessin là, mais en fait ces emplacements sont ont exactement la même proportion que la pyramide de Gizeh. C'est mortel.
N'oublie pas qu'on est à la radio, donc les petits dessins que tu peux montrer à tes collègues,
ben oui, je sais bien, mais j'essaie d'expliquer.
Je vais essayer de le décrire. Mais... C'est donc on voit la sphère donc terrestre, et donc il y a les trois points qui forment donc un triangle, puis qui sont répartis vraiment sur la surface du globe, et ça fait vraiment un triangle qui apparemment a les proportions de la pyramide de
Gizeh. Voilà. Et cette pyramide, elle a des proportions idéales de partout, le nombre d'or, tout ça, et apparemment la coudée et le mètre auraient des origines communes. Si on raisonne tout en mètres, le petit chapeau qui coiffait la pyramide, ils pensent l'avoir retrouvé ailleurs, et ce chapeau fait pile un mètre. Et comme en fait le mètre est issu de la rotation terrestre, le mètre, ça a été en fait un grand pendule, et on regarde le mouvement d'un pendule suivant la rotation. Bon, enfin, j'ai rien compris, mais c'est issu de la rotation de la Terre. Et si on reprend encore la pyramide, si on prend la base de la pyramide, qu'on fait un cercle qui rentre parfaitement dans la base de la pyramide, et qu'on fait un autre cercle à l'extérieur de la pyramide, mais qui passe par les coins de la pyramide, la distance entre ces deux cercles fait 299,79 mètres. Et en fait, si on se rapporte à la vitesse de la lumière, c'est 299,79 mètres ou millions de mètres par seconde. Donc on a pile la même truc. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, tout ce qui est géologue, tout ça, ils sont là. En fait, c'est la dernière septième merveille du monde qui reste. Et si nous, on devait laisser dans des civilisations... futur quelque chose, ou si c'était la fin de notre civilisation, les pyramides, c'est les seules choses qui resteraient dans les civilisations futures.
Et donc, peut-être la Grande Muraille de Chine aussi, du moins elle resterait assez longtemps.
Je suis pas sûr, parce qu'elle est déjà en train de tomber en morceaux, quoi. Parce qu'en fait, le granit est une des seules cailloux qui dans le temps ne bouge pas.
De roche,
voilà, merci. On est un expert. Nous, on a envoyé une sonde, la sonde Pioneer 10 en 72 dans l'espace, qui est censée dans 2 millions d'années se retrouver à Aldébaran. Et c'était en fait pour voir le périmètre de notre système solaire, tout ça. Et dedans, on y a mis une plaque qui avait la représentation d'un homme et d'une femme à côté de la sonde pour donner les proportions. Et après, on a des trucs, des inscriptions qui nous situent dans notre système solaire et dans notre galaxie.
Vous pouvez en voir une représentation dans Salut les Terriens tous les samedis sur Canal+.
D'accord. Donc en fait, l'hypothèse, bon alors là moi je c'est que des hypothèses qu'ils ont, serait que il y a eu une civilisation plus ancienne ou peut-être des extraterrestres qui en fait auraient construit ces pyramides pour nous alerter sur quelque chose. Alors nous alerter sur quoi? Eh ben, si on regarde la pyramide de Gizeh, et à côté il y a le Sphinx, et il y a deux autres petites pyramides, et les quatre côtés de la pyramide de Gizeh en fait sont pointent vers quatre constellations du zodiaque, et le Sphinx lui il pointe. Alors attends, je l'avais marqué.
Ça c'est un coup des Google,
la nébuleuse du Lion ou je sais pas quoi.
Ouais, je l'avais marqué. Mince.
Parce qu'en plus, c'est dans le même docu aussi où ils disent que peut-être la tête du sphinx, c'est pas vraiment la tête du sphinx qu'ils auraient retaillé dedans.
Non, ils disent pas ça.
Ah ouais, moi, c'est un autre docu.
Attends, j'avais l'autre page. Oui, la tête du sphinx, en fait, il y a une bosse en dessous de la tête du sphinx qui pointe vers l'étoile Régulus, qui est l'étoile la plus brillante qu'on puisse voir, nous, depuis la Terre. Et en fait, Régulus... En arabe, ça se dit Kalb al-Assad, qui veut aussi dire le cœur du lion. Donc tu vois, il y a des petits trucs là. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, tout ce placement des trois pyramides plus la tête du lion, ça serait en fait une horloge cosmique qui en fait indiquerait la précédence des équinoxes. Alors la précédence des équinoxes, c'est qu'en fait notre Terre elle tourne sur son axe, mais on est par rapport au Soleil, on est légèrement incliné. Et en fait tous les 26 000 ans, en fait, on fait un tour complet sur cet axe en forme de cône. Bon, je le fais avec mes mains, mais personne ne comprendra. Et donc, en fait, cette bosse sur le sphinx, elle, ça serait comme une horloge, et ça serait l'aiguille de l'horloge, et ça aurait 26 000 ans pour retourner.
Et donc voilà. Là, on arrive bientôt au...
Et donc, on ne sait pas, en fait, ils ne savent pas, parce qu'il y a 26 000 ans, il y a eu à peu près, il y a 15 ou 16 000 ans, il y a eu la disparition des mammouths, qui étaient super rapides. Ils ont retrouvé des mammouths gelés, qui avaient encore quelque chose dans l'estomac. Et après, il y a d'autres espèces, on sait qu'elles ont disparu, mais comme elles n'ont pas été congelées comme les mammouths, on ne sait pas trop. Et donc, ça, peut-être, ça serait un inversement de pôle, et ça, de pôle magnétique. Et quand il y a un inversement de pôle magnétique, on reçoit tous les vents solaires, et en fait, on crame. Et ça arrive assez fréquemment, mais ça ne dure pas plus d'une heure ou... peut-être une semaine, mais si tous les 26 000 ans ça dure, je sais pas, un mois, et on est foutu, quoi. C'est dingue, hein?
C'est cool, putain, c'est dingue.
Donc moi, ça m'a fait un tchou sur les pyramides égyptiennes, et que, il y a trop de faits qui ont... On sait pas, quoi. Bon, j'ai pas tout dit, hein, parce qu'après, ils font aussi des vases de ouf, qu'on sait même pas comment ils les ont fait, on serait pas allé refaire, quoi. Bon. Enfin bref, voilà.
Alex a bien complété le pad avec pas mal d'images là-dessus, et notamment un très bon diagramme à la fin expliquant comment fabriquer sa propre théorie de la conspiration.
Ouais. Après, la prochaine fois, nous parlons du 11 septembre. Voilà, j'ai fini.
Donc vous pouvez aller voir tous les liens dont on parle.
Tu as mis la vidéo aussi.
Et quelques dessins de...
Il faut que tu mettes la vidéo parce qu'elle est vraiment bien.
Des espèces de cercles sur la Terre avec, donc sur canalsud.tetala.org. Et la vidéo, j'ai pas trouvé le lien, donc je sais pas où aller. On passe un peu de son.
On passe un peu de son.
D'accord. Vous avez choisi quoi?
Je sais pas. Ça sera le surprise.
Prayer. Alors, ça veut bien partir.
Robin Schulz, Prayer Bootleg.
J'ai un petit souci. Thank you.
You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you.
Bienvenue, donc c'était Robin Schulz avec un remix de Lilywood and the Prick. Donc on passe au dossier, c'était sur la sécurité, Etienne.
Oui, ben, on a parlé l'autre fois pas mal de choses assez techniques, et on avait proposé pour cette émission de revenir sur des choses un peu plus simples, sur voilà, vous avez tous votre PC, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un PC pour éviter de faire n'importe quoi. Donc on va essayer de donner des règles simples, des outils quand il y en a qui sont intéressants et de pas trop dériver puisque c'est un sujet qui prend rapidement pas mal d'ampleur. Donc le premier objectif qui est souvent sous-estimé, c'est la première chose que vous craignez globalement pour votre ordinateur, c'est le fait que vous allez aller sur un site, vous allez avoir ou votre navigateur, ou votre plugin Flash, ou votre plugin, tous les plugins navigateurs qui ne sera pas à jour, et il y aura un exploit sur ce site, et votre ordinateur sera compromis. Alors, c'est la majorité, je pense, des attaques qu'il y a sur Internet, et vous allez vous récupérer. Alors, si c'est sur Windows, il y a les classiques faux antivirus, il y a plein de choses comme ça, il y a des choses beaucoup plus drôles, par exemple un malware qui bloque l'ordinateur en s'affichant gendarmerie nationale, et si on ne paye pas 200€, la gendarmerie nationale menace de nous mettre en procès.
Putain,
quoi. Ah non, très très bien fait. Ouais, ce malware, c'était un malware qui ciblait, qui regardait dans quel pays on était, qui connaissait une dizaine de pays dans le monde et qui mettait le logo de la gendarmerie et le langage qui était adapté par le pays. C'était très bien, quoi. Ça fait pas mal bouger la gendarmerie d'ailleurs, c'était rigolo. Et donc le premier objectif pour ça, c'est il faut garder votre ordinateur à jour, quel que soit votre ordinateur. Vous pouvez même avoir des Macs, je dirais rien, mais il faut le garder à jour. Donc pour ça, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages, notamment à Linux, puisqu'il y a un gestionnaire de paquets, donc les mises à jour sont faites, sont poussées, vous mettez tout à jour, c'est géré. Sous Windows, c'est beaucoup plus la galère, mais il faut absolument avoir Windows Update, et maintenant on commence à avoir des logiciels comme Secunia PSI qui permettent de regarder tous les logiciels que vous avez, qui vous disent attention, celui-là faut le mettre à jour, attention, celui-là faut le mettre à jour. Où on voit, par exemple, je sais que Flash, qui a été le plus gros vecteur d'attaque de ces dernières années avec Java, maintenant ont des mises à jour automatiques, des choses comme ça. Donc moi je sais que j'ai déjà vu des entreprises qui mettaient beaucoup d'argent dans des antivirus, et je pense qu'ils voudraient sérieusement mettre moins d'argent dans ces antivirus et beaucoup plus d'argent dans des mises à jour, ça serait plus efficace. Et ça va bien sûr après avec le respect des chaînes de confiance. Alors c'est vrai que sous Linux c'est plus simple puisque les paquets que vous récupérez sont chiffrés, mais c'est vrai que quand vous allez en ligne, il faut faire attention de ne pas récupérer vos logiciels n'importe où. Alors et par exemple, si vous récupérez VLC, le mieux c'est de les récupérer sur le site de VLC et pas d'aller sur d'autres sites. Et ce qu'on voit commencer à apparaître, c'est des sites comme SourceForge, malheureusement, qui... SourceForge, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les logiciels, mais pour certains logiciels, quand on télécharge VLC sur SourceForge notamment, on n'a pas VLC. On a VLC avec un paquet SourceForge autour qui propose d'installer des publicités, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes, puisque non, c'est quand même un logiciel libre que tout le monde utilise et on le voit récupérer avec un paquet de conneries autour, c'est pas terrible. Je vais parler quand même rapidement des antivirus. Alors les antivirus c'est joli, il y a beaucoup de pubs autour, mais quand on regarde, ça a quand même pas grand intérêt. Et ça coûte quand même assez cher. Alors c'est peut-être un peu dangereux de dire ça, parce que moi je conseille de pas mettre de l'argent dans un antivirus, parce que franchement dès qu'on fait un peu technique, on s'aperçoit que prendre un virus et le faire rendre non détectable par tous les antivirus, c'est... 5-10 minutes maximum, quoi. Il y a des outils automatiques qui ont dans nos programmes, ils masquent tout ça, on le met en ligne et c'est récupéré par, et c'est détecté par plus rien, par plus aucun antivirus, quoi. Donc il y a des antivirus gratuits qui sont largement suffisants. Si vous êtes sous Linux ou Mac, ça n'a pas d'intérêt. Sous Windows, il y a des anti-spyware qui viennent regarder. Donc les spyware, c'est des logiciels qui récupèrent des informations sur vous et qui les transmettent. Donc il y a Spybot qui est connu pour ça, il regarde tout ce qu'il y a sur votre ordinateur, il vous dit là, vous supprimez, il fait du ménage, c'est pas mal. Et un outil qui est utile, même si ça a été racheté par Google, c'est VirusTotal. Donc VirusTotal, c'est un site sur lequel vous allez, et quand vous avez un fichier bizarre, vous leur donnez, ils le passent dans une batterie d'antivirus, et à la fin ils vous disent celui-là il détecte. Et, bon, s'il n'y en a aucun qui détecte, ça a l'air plutôt bon, et s'il détecte tout, ça a l'air plutôt mauvais. Entre les deux, bah, c'est un peu à vous de vous faire une idée. Il y a une possibilité de mettre des commentaires en bas si des gens ont déjà trouvé.
Ça sert aussi pour les créateurs de virus, du coup, qui peuvent aller voir.
Alors, le problème, c'est que justement, VirusTotal, au début, c'était une startup qui a été rachetée par Google, et au début, c'était vraiment marginal, mais maintenant, ils en sont arrivés à devenir tout le monde l'utilise, et du coup, ils ont une base de données de virus qui est complètement dingue, et à tel point que. Quand il y a des malwares qui sortent, qui sont découverts aujourd'hui, pour savoir quand est-ce qu'ils sont sortis, ils vont voir quand est-ce qu'ils ont été testés la première fois sur VirusTotal. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est utile, ouais, effectivement, je pense que... Mais les créateurs de virus doivent avoir des choses équivalentes, mais chez eux, pour pas que ça sorte trop rapidement chez Google. Donc c'est un site qui est très bien fait et qui a une grosse communauté aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est le chiffrement de données, puisqu'il y a quand même de fortes chances que vous ayez un portable et que vous le perdiez un jour ou l'autre. Alors sous Windows, je connais pas de solution open source efficace, si ce n'est TrueCrypt, qui est pas vraiment du chiffrement du disque entier, mais du chiffrement de dossiers. Alors TrueCrypt, ça devrait être la base, puis c'est vraiment un logiciel qui est très bien fait, qui est très facile à utiliser, qui a une interface, qui est très intégré à Windows. C'est un des logiciels que Snowden a demandé d'installer à Glenn Greenwald avec PGP, dont on va parler tout à l'heure. Mm-hmm. Et Glenn Greenwald, justement, il y a eu une discussion très, très intéressante au CCC, puisqu'il est arrivé après à Snowden en disant « Ouais, j'ai installé TrueCrypt », et Snowden lui a répondu « Mais... » TrueCrypt, il est fait pour que même un gamin de 3 ans soit capable de le faire, alors ça sert à rien d'être fier. Donc je pense que tout le monde peut installer TrueCrypt. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que même des littéraires, quelqu'un qui expliquait ça à des littéraires avait réussi à l'utiliser, donc apparemment tout est possible.
Et ils sont en train, comme ça, un logiciel avec les sources qui sont fermées, ils sont en train de monter un système d'audit de sécurité sur TrueCrypt.
Alors les sources on peut faire, mais c'est open source. Mais effectivement, il faut une vérification. Je pense que c'est open source, mais effectivement, dans tous les débats qu'il y a eu sur la NSA dont on parlait l'autre fois, une des actions qui a été menée, c'est un groupe de cryptographes qui a dit bon, maintenant, la seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est des logiciels open source de cryptographie sur dans lesquels on a confiance. Et ils ont fait une quête, plein de gens ont donné de l'argent pour que des cryptographes, des professionnels qui sont très bons, ils vont aller revoir le code et lire ligne par ligne, et ça a commencé. Mais je pense, mais c'est open source,
c'est un jeu. C'est un source available freeware, donc les sources doivent être disponibles. Ok. Je crois qu'il y avait un truc par rapport à la compilation, je sais plus quoi.
Ah, peut-être, ouais.
Pour s'assurer qu'ils compilent de la même façon sur toutes les plateformes.
Ouais, parce qu'effectivement, il y a ce problème-là aussi, c'est qu'une même une fois qu'on a vérifié les sources, c'est pas fa... on n'est pas certain que le binaire qu'on récupère, c'est bien les sources qu'on voulait.
Petite question. Pour ceux qui mettent leurs données dans un nuage, il vaut mieux qu'elles soient cryptées, mais je suppose que la NSA a tout ce qu'il faut pour les décrypter, donc...
Alors non, il faut pas. On tombe souvent dans ce travers de la NSA a tout pour la cryptographie, et en fait non, la NSA a pas tout pour la cryptographie. La cryptographie de base marche. Le problème qu'on a, c'est qu'elle est souvent mal faite avec des mauvais logiciels. Donc la seule chose qu'on a, c'est effectivement il faut chiffrer ses données avec des outils, mais il faut avoir les bons outils. Et TrueCrypt aujourd'hui, c'est un des outils dans lesquels on a le plus de confiance. Donc s'il y a quelque chose à recommander, c'est effectivement, je pense que TrueCrypt c'est un des outils les plus utilisables, les plus faciles à utiliser et les plus efficaces en termes de cryptographie.
D'accord.
Et il faut éviter, oui, de mettre les données en clair sur le nuage.
Effectivement, le problème de toute utilisation, c'est qu'il faut voir les données qu'on met, il faut voir comment on les met, il faut voir à qui on les donne.
Sachant que Dropbox, par exemple, un des sites les plus utilisés pour stocker des données en ligne, et a accès à toutes les données qui sont stockées en ligne.
Oui, bien sûr.
Enfin, je parle de NSA, mais comme on disait, tous les services secrets vont aller piocher dans les nuages s'ils le peuvent.
Bien sûr, le gros avantage que la NSA, c'est que la majorité des fournisseurs de services cloud ou web 2.0, tout ce qu'on veut, est américaine. Et donc la NSA peut dire, que ce soit Google, Microsoft, etc., et ils peuvent imposer le fait d'avoir accès à ces données, contrairement au gouvernement français ou à d'autres.
Oui, le gouvernement français peut le faire sur Orange ou sur les autres fournisseurs. Il n'y en a pas beaucoup. Hein,
la français. Loi de promulgation militaire.
Programmation militaire.
Programmation militaire, c'est bon, ils font ce qu'ils veulent maintenant.
Mais pas aux États-Unis.
Oui, non, mais enfin,
en France.
Sur les données qui sont en France.
Et bon, ils ont des accords avec,
la NSA pour accéder à des données.
Le truc lustre qui est. Ils s'échangent entre copains parce que nous, on a le backbone qui va vers l'Afrique. Et donc, on a toutes les données qui transitent chez nous. Donc, on se revend les fichiers.
Mmh. Ouais, clairement, on sait qu'il y a des collaborations entre les organismes. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait, etc. Jusqu'à présent, c'est vrai que la NSA, quand même. De ce qu'on sait, une grosse avance sur pas mal de monde.
Oui, et puis ils ont le personnel et le matériel pour casser les codes.
30 000 personnes ont travaillé à la NSA.
S'il y a quelqu'un qui travaille à DGS, qui veut faire lanceur d'alerte, aller vivre en Russie, qu'il se fasse plaisir, quoi, mais bon.
Oui, mais est-ce que l'on a envie de vivre en Russie?
En été, c'est quand même, le climat est pas mal, quoi.
Oui, ça dépend que dans quel coin, hein. C'est toujours pareil.
Puis ouais.
Bon, je vous laisse à votre discussion.
Oui.
Donc on a parlé rapidement donc, du chiffrement. Effectivement, sous Linux, il y a des chiffrements de disques qui sont plus efficaces, sous Windows, qui sont très bien aussi, qui permettent de chiffrer tout le disque. Sous Windows, il y a des outils qui commencent à sortir comme BitLocker, mais qui sont des outils Microsoft, qui sont donc payants, donc plutôt professionnels et assez difficilement accessibles. Rapidement, on va passer sur quelques outils. Bon, pour le chiffrement des mails, le standard aujourd'hui c'est PGP, son implémentation open source GPG. Donc on parlait l'autre fois rapidement de TLS, où il y a des autorités de certification. GPG c'est complètement décentralisé, donc vous allez devoir récupérer les clés des autres personnes, vous assurer que c'est bien la bonne clé pour pouvoir lui chiffrer, lui envoyer. Mais il y a des outils qui permettent de l'intégrer, donc la solution la plus simple c'est Thunderbird qui est l'équivalent d'Outlook open source et Enigmail qui est un plugin qui permet d'utiliser GPG. Et enfin on va en arriver rapidement à la protection en ligne. Alors comme on disait, bon, il faut absolument que votre navigateur soit à jour. Il y a un plugin qui est vraiment bien qui s'appelle NoScript qui bloque par défaut le JavaScript, le Flash et le Java, et c'est à vous de dire que vous allez l'activer. Alors c'est un plugin qui peut être un peu lourd parce qu'effectivement la plupart des sites sans JavaScript il n'y a pas grand chose qui marche, mais ça permet d'activer JavaScript que sur les sites qu'on connaît en disant celui-là j'ai confiance, TTLab ça va, etc., et de le bloquer ailleurs. Ça peut être intéressant aussi de bloquer les cookies puisque alors, si on parle un peu moins de sécurité, un peu plus de vie privée, un gros problème de la vie privée, c'est que des personnes suivent l'activité des gens par rapport à des cookies. Alors c'est rarement un site, puisque vous avez rarement sur un site, ceux qui ont le plus de marge de manœuvre, c'est ceux qui sont sur beaucoup de sites. Donc il y a notamment Google avec par exemple Google Analytics, puisque la majorité des sites utilisent Google Analytics, donc à chaque fois que vous allez sur un site qui a Google Analytics, en fait vous avez fait une requête à Google. Et donc ça va dire à Google, bonjour je suis là. C'est la même chose avec les boutons Twitter, les boutons Facebook, et ceux qui ont des choses de publicité, donc tous les, ou les Discus, ou les choses comme ça, qui sont sur beaucoup de sites. Donc vous allez sur plein de sites, et à chaque fois que vous allez par exemple sur Discus, ça va dire, ah lui il était là, puis lui il était là, puis il était là, et on peut suivre votre trafic.
Il y a un plugin sur Chrome.
Sous Firefox, il a été fait, je crois, par Mozilla, qui s'appelle Collusion. En fait, c'est vraiment effrayant, c'est ça. En fait, vous allez l'activer, puis vous allez naviguer, et puis il va vous mettre une bulle pour chaque site que vous voyez, et puis une bulle pour chaque site auquel vous vous connectez, donc les pubs, et ils vont les relier. Donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez aller sur un site, puis un autre, puis un autre, et au milieu, il y a des bulles qui vont se fermer, qui auront eu une connexion avec tous ces sites, donc Google Analytics, les pubs, et là, vous allez voir de manière graphique, en plus, c'est très joli, je vous encourage à aller voir vraiment les sites qui permettent de récupérer toutes ces informations. Donc bloquer les cookies, c'est une bonne façon de se protéger contre ça, et nos scripts aussi permet également de bloquer le JavaScript, donc souvent de bloquer ces connexions. Et enfin, un dernier plugin qui est intéressant, qui a été fait par l'EFF, qui s'appelle HTTPS Everywhere, qui a une liste de sites qui sont en HTTPS, et par défaut, quand vous irez sur Google ou d'autres sites, il va vous le passer en HTTPS. Voilà, on peut en arriver sur... On peut parler également du réseau Tor rapidement, qui est un réseau qui permet de garantir l'anonymat, qui est aujourd'hui assez simple à utiliser, puisqu'ils ont fait un Tor browser dans lequel vous allez récupérer un paquet, vous le lancez, il va vous lancer Tor, il va vous lancer un navigateur avec Tor, et vous arrivez. Alors bon, il n'y a pas le même débit, c'est sûr, mais par contre, le principe de Tor, c'est que vous avez passé par des serveurs intermédiaires, et donc le serveur distant sur lequel vous allez aller ne pourra pas savoir d'où vient votre adresse IP.
Est-ce qu'on ne devient pas suspect en utilisant Tor ?
Alors c'est une des choses, ce qu'on a su avec la révélation de la NSA, c'est qu'effectivement la NSA a du mal à repérer les utilisateurs de Tor, mais clairement ils rentrent dessus dans une catégorie d'utilisateurs de Tor. Donc est-ce qu'on devient suspect ? Je sais pas. Si vous protégez la NSA, probablement oui. Si vous voulez juste être anonyme sur Internet, un peu moins. Clairement pour la NSA, ça devient suspect. On sait même qu'ils ont mis en place des choses pour attaquer spécifiquement des utilisateurs de Tor en menant des attaques sur leur navigateur, sur des versions à jour de Firefox avec des vulnérabilités 0D.
Il y avait une crypto-party avant-hier à Toulouse, mardi soir, et on a parlé un peu de Tor avec quelqu'un. Il me parlait il y avait eu un problème dans une classe d'étudiants avec quelqu'un qui avait fait des bêtises. Donc il avait utilisé Tor, ils étaient 4 dans la classe à utiliser Tor. Donc c'était super simple à trouver qui c'est qui avait fait ça. Et donc Tor a sorti quelque chose depuis qui a servi, je sais plus où, peut-être en Syrie, s'appelle OBFS Proxy. Ça permet de cacher le trafic Tor dans du trafic SSH ou HTTP. Donc ça, en plus d'utiliser Tor, on cache le fait qu'on utilise Tor dans un autre type de trafic, et ça permet d'éviter justement d'être repéré comme utilisateur de Tor, donc de rajouter encore une couche pour dire voilà, c'était pas moi.
Ouais, puis hier c'était The Day We Fight Back, je sais pas quoi.
Ouais, mardi c'était le
jour où on se rebelle, quoi.
Jour où on se rebelle, NSA, c'était un mémoire aussi à Aaron Schwartz qui est mort, qui s'est suicidé l'année dernière parce qu'il était poursuivi aux États-Unis. Mmh. Enfin, grosse pression, position de stress liée à des poursuites judiciaires. Et voilà, donc il y avait pas mal de sites qui affichaient une bannière noire en bas du site pour dire qu'ils voulaient plus de la surveillance de la NSA et tout ça.
Ils ont bien dû se marrer à la NSA.
Il y avait une pétition également pour dire qu'on voulait moins de surveillance.
Mm-hmm. Exactement.
Alors je sais pas si tu parles de cryptographie, c'est la seconde sur Toulouse à ma connaissance, il y en a régulièrement en crypto-party, pardon.
Là, ils espéraient en annoncer une dans les prochaines semaines.
D'accord, donc on essaiera peut-être de le faire passer, puisque pour ces événements qui sont intéressants.
Et vous pouvez faire parvenir l'information à Canal Sud 31@wanadoo pour que l'on puisse la diffuser pendant le magazine.
D'accord. Ok. Donc je vais peut-être finir avec deux points que j'ai oubliés qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est qu'il y a un plugin qui est lui beaucoup plus simple d'utilisation, qui permet d'éviter d'être hacké dans un navigateur qui s'appelle Ghostery. Donc je mettrai le lien sur le pad, mais il connaît juste Google ou plein de réseaux sociaux, etc. Vous choisissez qu'est-ce que vous bloquez, par défaut il vous les bloque, c'est beaucoup moins intrusif que nos scripts qui peut être un peu pénible.
Il faut faire attention, est-ce que des agences de pub peuvent payer Ghostery pour qu'il soit dans une whitelist, et du coup des fois on voit des sites qui sont pas bloqués, il faut aller les bloquer à la main. Enfin bon, au moins ils l'annoncent.
C'est vrai. Et un autre point qui est vraiment intéressant, qui a été fait par Rapid7, une entreprise de sécurité, qui s'appelle ScanMe, en fait, donc je vous mettrai le lien aussi. Le principe, c'est qu'il va regarder votre navigateur, il va regarder les plugins, il va vous dire tiens, c'est bon, vous êtes à jour, c'est bon, vous êtes à jour, ou attention, Flash, c'est pas à jour, vous avez peut-être vulnérabilité, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, ça vous permet de faire un bilan assez rapide de est-ce que vous êtes à jour ou pas sur votre navigateur.
D'accord.
Voilà.
Et alors, on retrouve la liste de tous ces softs sur le pad.
Je vais les mettre là. Ouais.
Guillaume, tu étais venu pour nous parler de quelque chose, nous annoncer la prochaine date du Drink and Draw.
Ah ouais, eh ben, le prochain Drink and Draw, c'est au mois de mars, le premier vendredi de mars à la mécanique des fluides, comme la... Enfin, c'était la semaine dernière du coup le Drink and Draw, et là, c'est le prochain c'est...
Ce sera le 7 mars.
D'accord.
Venez nombreux.
Pierre, tu avais un truc à nous dire. Je le sens.
Oui, bah on peut en parler rapidement. C'est
reste 10 minutes.
C'est qu'en fait, alors je vais te faire. Non, c'était par rapport à cette idée de tracking, c'est le fait qu'on puisse être surveillé. On parle donc de techniques, de plugins dans les navigateurs et de disons de méthodes à utiliser pour être le plus anonyme possible sur le net, pouvoir sauvegarder sa vie privée, etc. Il m'est arrivé récemment des histoires, en fait, qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont en fait l'alcoolémie au volant, où je me suis fait choper, j'étais bourré dans ma voiture.
C'est pas bien.
Voilà, donc c'est pas bien, effectivement. Et donc en fait, ça, bon, bah, c'est, je pense que tout le monde connaît, on est tous plus ou moins, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait choper un jour ou l'autre, qui a son permis ou pas. Ce qui m'est arrivé, en fait, c'est qu'on doit faire plusieurs visites médicales, suite donc à cette infraction, et un an après m'être fait choper, donc j'ai refait une visite médicale où on m'a déclaré alcoolique, à ma grande surprise. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai une inaptitude à conduire, vu l'état d'urgence de mon état de santé, c'est ce qui est indiqué sur le papier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à partir de ce délit-là, donc où j'ai payé ma première partie du délit, c'est-à-dire que quand je me suis fait choper, j'ai effectivement pas eu le permis pendant, j'ai eu une suspension de permis pendant 3 mois, j'ai payé une amende, j'ai dû faire des tests psychotechniques où on joue à un espèce de jeu vidéo à 2 balles, j'ai suivi une formation pour récupérer des points avec, enfin bon, tout un espèce de protocole comme ça, voilà, mis en place par le département d'Haute-Garonne. Ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'appel alternative. Enfin bon, ceci dit, là où je me suis vraiment fait avoir, c'est donc sur cette seconde visite médicale, un an plus tard donc. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que ces données-là, ces données corporelles, donc là on parle pas de traces qu'on laisse sur Facebook, etc., on parle de prise de sang. Donc on donne une partie de notre sang à nous, à l'État. Et en fonction de ça, on décide ou pas de mon droit à conduire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de double peine, où en fait, ce qui m'arrive maintenant, c'est que là, je suis sur une inaptitude sur 6 mois, ça veut dire que j'ai plus de permis pendant 6 mois, alors qu'on m'avait retiré suspendu le permis la première fois pendant seulement 2 mois, sur la base d'une analyse de sang faite par un labo privé. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux limite, c'est 1,7 de CDT, qui est en fait une transaminase, c'est-à-dire une espèce de protéine qui marque l'alcool. Et donc, moi, j'avais 1,9 au lieu de 1,7, c'est-à-dire en gros un écart de 10% par rapport au taux max. Et c'est ce qui fait que, en fait, je me retrouve avec cette interdiction de conduire, vu mon état de santé.
T'es inscrit chez les alcooliques anonymes gratos ou...
Non. Ce que je trouve, en fait, moi, ce qui me... Il y a plusieurs choses qui me font réagir. C'est d'une part le fait que ces données soient conservées, c'est-à-dire que c'est des données qui sont quand même très intimes, qui concernent pas mon avis politique ou je ne sais quoi, mais qui sont des choses qui concernent mon corps directement, et qui, sur la base de l'utilisation que moi je fais de mon corps personnellement, m'interdit par prévention, parce que là, il faut bien comprendre que la seconde fois que j'ai fait mon analyse médicale,
J'avais déjà plus le permis, mon permis provisoire était suspendu, donc j'ai été à la visite médicale en vélo parce que j'avais plus le permis. Et donc on m'a interdit de conduire par prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de second délit. C'est-à-dire qu'on a, on a prédit le fait que j'étais quelqu'un de, à risque, donc à la conduite, et de, juste de ce fait-là, en fait, on interdit de conduire, en fait. On prive quelqu'un d'un droit à la conduite, quoi. Voilà, c'était juste ça.
Et petite... t'avais bu la veille ?
Alors, ouais, je crois que la veille, j'avais bu 2 ou 3 verres de vin, ouais, effectivement, ouais. Ouais.
Je crois que, donc, à tous ceux qui, à qui c'est arrivé, eh bien, il faudrait peut-être d'abord voir combien de temps ça dure, ça, c'est... ces plaquettes ou ce qu'on a mesuré là restent dans le corps parce que c'est comme si t'as fumé un pétard
voilà.
Alors, ça reste un mois dans le corps donc,
alors en fait les informations sont assez contradictoires, c'est-à-dire que donc je me suis fait un peu traiter de tout par les médecins de administratif à Compense Caffarelli là. Ils m'ont traité d'alcoolique, de menteur, parce que bon, évidemment j'ai argumenté sur le fait que non, j'étais pas alcoolique. Ce que les docteurs m'ont dit, c'est que j'étais en état d'intoxication alcoolique. Et donc qu'est-ce que c'est une intoxication alcoolique? C'est, d'après les papiers dans le bureau des docteurs, c'est une consommation de 50 à 80 grammes d'alcool sur les 3 derniers mois. Ce que je conteste formellement.
Ça représente quoi, 50 à... en nombre de verres ou de litres?
Ça représente une bouteille ou deux bouteilles de vin par jour.
Ouais, oui.
Voilà.
Oui,
ce que moi j'ai contesté formellement, quoi. Enfin, j'étais très clair là-dessus. Parce que, bon, c'est pas passé, mais bon. Okay. Non, moi ce que je pense en fait, par rapport donc à ces chiffres-là, c'est-à-dire la consommation sur 3 mois d'alcool de l'ordre de 50 à 80 grammes d'alcool par jour, je pense qu'en fait c'est faux. Je pense qu'en fait, en pratique, il suffit d'être abstinent sur les derniers 15 jours environ. Précédant la prise de sang pour que tous les taux reviennent à la normale. Il y a une demi-vie des CDT qui est de l'ordre de 17 jours, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc la demi-vie, c'est le moment où on n'a plus que la moitié des marqueurs dans le sang.
Au niveau du fait que tu sois quelque part dans une liste, est-ce que tu as un droit de regard dessus? Est-ce que tu sais qui va l'utiliser? Est-ce que
pas
tu sais
tout.
Combien de temps tu vas rester dedans? Parce que je suppose qu'il n'y a personne qui fait le nettoyage dans ce truc comme dans les fichiers policiers.
Non, justement, la préfecture est absolument injoignable. Enfin,
est-ce que quelqu'un est-ce que la CNIL s'est déjà pensé pencher dessus?
Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose en fait. C'est pour ça que je me permets d'en parler là, c'est parce que je trouve que c'est quand même assez...
Tu sais si c'est une loi qui est récente? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce type de mesure. En général, quand il y a des lois qui passent sur le code de la route, ça fait beaucoup de bruit, on entend parler de kilomètres, etc.
Alors, il y a eu discussion dans le bureau des docteurs où en fait, je pense que c'était limite. C'est-à-dire qu'ils auraient pu me rendre le permis, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont suivi les textes, d'après leur dire. Et apparemment, c'est des textes qui datent de l'été 2013.
D'accord, donc c'est vraiment récent.
C'est assez récent.
Ouais. Mais après, pour cette durée de ces protéines, il faut que tu essayes de voir s'il y a vraiment une différence énorme, parce que je ne sais pas si tu en auras peut-être une autre prise de sang, c'est possible.
Ouais, alors moi c'est ce que je demandais, c'est-à-dire j'ai fait un espèce de recours administratif sur lequel j'ai absolument pas de nouvelles en fait. Donc j'ai écrit plusieurs fois à la préfecture, j'ai aucun retour, et donc en tout état de cause, là j'ai 6 mois d'inaptitude.
Bon, bah voilà. Écoutez, on va terminer là. Un petit peu de musique avant de partir, ou vous avez vraiment des informations très importantes?
Alex, on rappelle que le Total App, c'est tous les mercredis soirs, et que vous pouvez venir nous voir mercredi prochain à partir de 21h à Mixart Meris.
Et on se retrouve le mois prochain, et on parlera de photos sûrement.
Ouais.
Voilà.
Voilà. Et le mois prochain, ça sera bien le premier jeudi du mois.
Ok,
perfect. Voilà, désolé pour la semaine dernière. On part en musique. C'est quoi une
lettre à Élise.
Oh,
c'est Yoshi Horikaya.
Voici Orchi, oui. Achoum. C'est parti. Bonne continuation. Au mois prochain.
Salut.
Et vous allez retrouver Canal Flamenco.
Thank you.